Bonjour frères et sœurs.
Donc la semaine dernière, nous avons étudié le chapitre 2 et le début qui raconte l'épisode de... Qui était là la semaine passée? Les noces de Cana, oui c'est ça. Même si ce passage ne parle pas directement des noces de l'agneau, ce qu'on a chanté aussi, il nous en donne quand même un avant-goût réel. Il évoque la joie, l'union, l'abondance que nous vivrons pleinement et lorsque l'Église sera unie, réunie avec Christ, son époux, c'est-à-dire lors des noces de l'agneau, ce qu'on lit dans l'Apocalypse chapitre 19. Mais dans ces passages aussi qu'on a étudié la semaine passée, nous avons vu surtout l'intervention miraculeuse de Jésus. Il a fait un miracle, un signe que Jean il dit là, il change l'eau en vin. Et il dit, vous vous rappelez un peu, il dit aux serviteurs là, de remplir les jarres d'eau. Et ces jarres étaient des récipients en pierre qui servaient aux purifications des Juifs. Et elles représentaient l'ancien ordre religieux, l'ancienne alliance, désormais dépassée. Mais l'eau des rites de l'ancienne alliance était quand même bonne. Mais Jésus apporte dans la nouvelle alliance encore meilleure. Le vin nouveau, donc, symbolise la joie, la bénédiction messianique et la nouvelle alliance inaugurée par Jésus. Et Jean nous dit que c'est à Cana, pardon, c'est pas Cana, c'est à Cana le commencement des miracles, des signes qu'il dit aussi, et que fit Jésus. Et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui, ce qu'on a fini la semaine passée. Mais c'est justement de cette gloire que Jean parle au début de cet évangile. Vous vous rappelez quand il mentionne « La parole a été faite chair et elle habita parmi nous, et plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et quand il dit « La parole s'est faite chair et l'a habité », il dit « Il a dressé sa tente parmi nous. » En tout cas, le mot utilisé, c'est pour dire « il a dressé sa tente », c'est comme le mot est traduit par le tabernacle dans le Nouveau Testament, c'est ce mot-là qui est traduit par le tabernacle. Et plus tard, vous vous rappelez du tabernacle dans Exode, c'est là la présence de Dieu. Plus tard, cette présence-là est venue dans le temple, ce qu'on va parler aujourd'hui. Là. Et nous avons contemplé sa gloire. Le passage que nous étudions aujourd'hui nous parle aussi de cette gloire du Fils unique, mais d'une forme plus cachée, un peu plus voilée, surtout pour ceux qui ont reçu ont vécu cet événement. Et c'est un peu caché. Et ils étaient témoins de ce que Jésus était en train de dire et faire. Et donc, je vous invite tout de suite à lire dans Jean, chapitre 2, puis on va lire la suite du chapitre 2, l'Évangile selon Jean, chapitre 2. Du verset 12 au verset 25, s'il vous plaît. 12 à 25. C'est bon? Vous avez tous dans vos téléphones, dans vos Bibles, 12 à 25, chapitre 2. Bon, après cela, il dit, il descendit à Capernaum avec sa mère, c'est-à-dire Jésus, avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs des brebis et des pigeons, et des changeurs aussi. Il fit un fouet des cordes et les chassa, tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables, et dit aux vendeurs des pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et ses disciples se souvinrent de ce qui est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel miracle ou quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Car il fut ressuscité d'entre les morts, quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent de ce qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas d'eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Donc on finit de cette façon le chapitre 2 de Jean. Et Jésus fait ces déclarations que nous connaissons, nous avons déjà entendu. Détruisez ce temple, il dit, et en 3 jours, je le reconstruirai. Et Jésus nous dit, Jean, dans son évangile, des fois Jean, il rajoute quelques commentaires, hein, un peu pour dire qu'est-ce que Jésus voulait dire. Et Jean nous dit dans cet évangile, il nous dit que Jésus parlait du temple de son corps. Et quand il fut ressuscité, il dit entre les morts, les disciples se sont rappelés de ces mots-là. Ils ont cru à l'Écriture, non seulement à l'Écriture, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Que tous les prophètes et tout l'Ancien Testament parlaient de lui. Ils crurent à l'Écriture et à ses paroles aussi, aux paroles de Jésus. Donc Jésus est le véritable temple. Il est en train de dire ça aux Juifs. Je suis le véritable temple, le vrai temple. Donc regardons de plus près. Qu'est-ce que cela signifie pour les premiers lecteurs? Et nous allons voir aussi qu'est-ce que signifie pour nous le fait que Jésus est le vrai temple. Donc, du verset 12 à 13, ce passage suit chronologiquement, c'est ce qu'on a lu la semaine passée, c'est-à-dire les noces de Cana. Et on voit que Jésus, sa mère, ses frères aussi, ils montent avec eux et ses disciples. Ils vont premièrement à Capernaum, il reste pour quelques jours, puis après, il monte à Jérusalem. Parce que, Jean le dit, la Pâque des Juifs approchait. Cela nous rappelle à quel point Jésus tenait vraiment à accorder l'importance aux fêtes juives. Et dans cet évangile, Jean, l'auteur, relie beaucoup des grands événements à la vie de Jésus dans différentes célébrations juives. Mais dans ces cas-là, là, il parle de la Pâque. En fait, dans cet évangile, il y a 3 Pâques qui sont mentionnées. 3 Pâques dans ce chapitre, dans le chapitre 6 aussi, dans le chapitre 11 aussi. Et dans chacune d'elles, des événements importants nous sont présentés en ce qui concerne Jésus et son œuvre aussi. Donc Jean utilise chaque fois la même expression. Vous allez voir dans tout l'évangile, là, si vous faites une recherche dans tout l'évangile selon Jean, il commence toujours par cette expression, la Pâque des Juifs était proche. Il continue son récit, mais c'est en partie, en fait, à cause de ça que ces 3 références qu'on estime que le ministère de Jésus a duré à peu près 3 ans, parce que la Pâque était une fête annuelle, là, donc 3 ans. Et c'est pour ça qu'on en déduit aussi que peut-être il est mort à 33 ans, là, parce que l'Évangile, selon Luc, il nous dit que Jésus avait à peu près 30 ans lorsqu'il commence son ministère. Mais ce passage nous présente le premier témoignage public en ce qui concerne l'Évangile selon Jean, le premier témoignage public de Jésus à Jérusalem, à l'occasion, comme on dit, la fête des Pâques. Et comme nous le savons, la fête des Pâques, c'était une fête annuelle, des Juifs, là, qui rappelait la délivrance de quoi? Du peuple d'Israël, de l'esclavage de l'Égypte. Et aussi la protection contre le jugement de Dieu, rendu possible par le sang de quoi? D'un agneau pascal. Et cette fois-ci, quand Jean nous raconte cette histoire-là, c'est ce qui s'est passé tout près du temple, c'est l'agneau de Dieu. Jésus, comme Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Cet agneau-là monte à Jérusalem. Et dans le prochain verset, Jésus annonce d'une manière encore voilée sa propre mort comme le sacrifice ultime pour le péché. pour ça que l'apôtre Paul nous dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc regardons les circonstances qui entourent cette annonce-là de Jésus. Tout d'abord, on voit que Jésus purifie le temple. Dans nos Bibles, nous avons des fois Jésus chasse les vendeurs. Dans d'autres Bibles, on voit ce titre-là, Jésus purifie le temple, du verset 14 à 17. Et c'est en ce qui concerne la purification faite par Jésus. Et comparé aux autres évangiles, cette purification, dans l'évangile selon Jean, est placée au début, on est dans le chapitre 2. Dans les autres évangiles, est placée au dernier, il la place en dernier. Donc comment concilier cet ordre-là? Parce que l'évangile selon Jean le place au début, puis les autres évangiles le placent en dernier. Et est-ce qu'il y a eu deux purifications du temple? Et probablement oui. Peut-être une lecture plus naturelle de ce texte-là va dans le sens probablement des deux purifications distinctes dans le temple. En tout cas, je crois que cela était possible. Combien de fois Jésus a rendu les aveugles la vue? Combien de fois? Une fois? Plusieurs fois. D'ailleurs, Jean, à la fin de son évangile, il dit que Jésus a fait tellement de miracles qu'on ne pouvait pas écrire les livres. On ne pouvait pas vraiment avoir la place pour écrire tout ce qu'il a fait. C'est sûr, il le fait d'une façon exagérée pour dire qu'il a fait beaucoup de choses, mais rien n'empêche qu'il y a eu deux purifications du temple. Donc, si vous lisez bien les trois évangiles et l'évangile de Jean, il y a quand même des différences. Et les circonstances sont différentes. Donc, par contre, il est important de noter que le récit de la purification du temple chez Jean nous donne aussi une bonne arrière-plan du récit dans les autres évangiles. Parce que les mots qui sont mentionnés ici dans Jean sont mentionnés dans les autres évangiles. Et ils ne sont pas mentionnés lors de la purification du temple. Donc, sans oublier que dans les autres évangiles, cette purification présente comme un événement aussi déclencheur. C'est-à-dire, c'est lui qui fait éclater la colère des Juifs et il décide l'arrêter et même vouloir le tuer. En différence dans cet évangile-là. Ce n'est pas le même cas, ce n'est pas les mêmes circonstances. Donc, nous nous rappelons des faits juifs. Des gens venaient de toutes parts de l'Empire. Ils se rassemblaient à Jérusalem. Jésus arrivait et il trouve, qu'est-ce qu'il trouve dans le temple? Des bœufs, des brebis, des marchands, des changeurs, et il est en colère. Ces gens se trouvaient probablement dans la cour extérieure du temple, okay, qui était réservée pour les gentils, là, pour les étrangers. Mais ils pouvaient quand même rentrer au temple. Et Jésus est en colère, il dit qu'il fabrique un fouet, là, des cordes, pour chasser hors du temple les brebis et les bœufs aussi. Et il dispersa aussi la monnaie des changeurs, il renversa les tables de ces changeurs-là. Mais il dit au vendeur des pigeons, il dit, ôtez ces choses-là d'ici. Il libère pas les pigeons, là, il leur dit, délibérez tout cela. Donc il se met en colère parce que ces gens-là ont oublié la raison d'être du temple, c'est-à-dire, et des sacrifices aussi. On l'avait transformé en quoi? Selon lui, dans une maison de quoi? De trafic. Une maison de commerce, de business. Donc, et c'est pour ça que Jésus est en colère. De cette façon, Jésus exprime aussi le désir d'un culte pur et d'une relation juste avec Dieu dans un lieu qui devrait être consacré à la rencontre avec Dieu, à sa rencontre avec lui. Jean fait probablement allusion au prophète Malachie dans le chapitre 3, quand il mentionne « Voici que j'enverrai mon messager, dit Malachie. Il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. » Quand les disciples ont vu ce que Jésus faisait, Jean nous dit qu'ils se sont rappelés. Et justement, il ne cite pas le psaume le psaume 69, mais c'est vraiment le psaume 69 quand il dit que le zèle pour la maison de Dieu le consomme. Ils ont réalisé que c'était bien Jésus, le Messie qui parlait. Et ce psaume-là, il parle de ce Messie. Mais Jean aussi fait probablement référence à, quand il parle des disciples qui ont cru à ce que Jésus est en train de faire, et il compare ça au Messie, et le zèle pour la maison de Dieu du Messie. Il compare probablement, à, il parle probablement des disciples, il parle probablement des André. Vous vous rappelez, dans le chapitre 1, on a vu que Jésus appelle quelques disciples, commence à les suivre. Est-ce que ces disciples avaient une connaissance vraiment claire de qui était Jésus, sa personne? Il semble que oui. Au moins, il le voyait comme le Messie. Vous vous rappelez ce qu'André a dit à son frère Pierre? Il dit, nous avons trouvé qui? Le Messie, il dit. Et Philippe même, il dit qu'il va trouver Nathanaël. Il lui annonce, nous avons trouver celui qui dont parle la loi et les Moïse et les prophètes même, il dit. Et enfin, même Nathanaël, lui-même, déclare que Jésus, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et ces disciples ont vraiment fait les liens avec le Messie. C'est pour ça qu'il mentionne le psaume 69. Mais Jean dit aussi que ses disciples comprendront plus tard que Jésus est le vrai temple, en fait, qui remplace l'ancien. Ce que nous avons lu dans les versets 18 à 22. Quand Jésus chasse les vendeurs du temple, les chefs juifs, qu'est-ce qu'ils lui demandent? Quel signe, dit, peux-tu nous donner, nous montrer, pour prouver que tu as le droit vraiment d'agir de cette façon? Quel signe tu nous donnes? Et Jésus, qu'est-ce qu'il donne? Il donne un signe? Oui, il répond. Il dit que le signe, ça va être ça. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Mais ces gens-là, ils pensaient qu'il parlait de quoi? Du temple physique, fait en pierre, là. Ils trouvent ça absurde, même, je crois qu'ils se sont même moqués de lui quand il répond. Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et tu le dis, tu vas le détruire en 3 jours. Ils ne comprenaient pas encore, même les disciples, ils ne comprenaient pas encore de ce que Jésus parlait. Mais Jean nous dit, plus tard, après la résurrection, ils se sont souvenus de cette parole. Ils ont compris qu'il parlait du temple de son corps. Alors, les disciples, ils disent, croire à l'Écriture, et non seulement à l'Écriture, à tout ce qu'ils croyaient, ils ont cité le psaume 69, je crois, mais ils croient aussi à la parole de Jésus, aux paroles que Jésus avait mentionnées en ce qui concerne le temple. Donc, Jean est un témoin fiable. Il prend soin de vraiment faire la différence. Ce que les disciples comprenaient avant et après la résurrection. Il ne raconte pas une histoire inventée, ok? Il nous dit vraiment des faits réels qui sont passés, qui sont arrivés. Donc, la résurrection change tout. Les disciples ont compris que Jésus n'était pas seulement un roi comme David. Il est appelé même fils de David, mais aussi le serviteur souffrant annoncé par les prophètes. Ils ont compris aussi que tout dans l'ancienne alliance, comme le temple, les sacrifices, l'agneau pascal, pointaient vers Jésus, le vrai lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Ce n'est plus un bâtiment, c'est une personne. C'est qui? C'est Jésus lui-même. Enfin, Jésus nous donne une nouvelle manière de lire l'Écriture. Grâce à lui, nous voyons que tout l'Ancien Testament annonce le Messie crucifié et ressuscité, le vrai temple relevé dans 3 jours. Dans ces signes, c'est accompli pour ces Juifs-là. Malheureusement, ces Juifs-là, ils n'auront plus de temple, pour eux en tout cas, pour aller au temple pour adorer, pour offrir des sacrifices pour leur faute. Mais plus tard, nous allons voir dans le chapitre 4, quand Jésus parle à la femme samaritaine, il dit « Femme, lui dit Jésus, crois-tu, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, il dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Est-ce que vous l'avez fait ce matin? Oui, je crois que tous ceux qui sont enfants de Dieu l'ont fait ce matin. Nous adorons le Père en esprit et en vérité. Nous n'avons plus besoin d'un temple. Même ce temple-là, on ne peut pas l'appeler temple. Nous sommes le temple, comme Richard disait. Nous sommes le temple, nous sommes la maison de Dieu. Et Jean conclut son récit en disant, dans les versets 23 et 20 à 25, que pendant la fête des Pâques à Jérusalem, il accomplit d'autres miracles qu'il ne le mentionne pas, ou des signes, mais il ne fait pas mention de ces miracles-là, plusieurs autres miracles. Ces signes ont amené plusieurs mêmes personnes à croire, il dit, en son nom, c'est-à-dire à placer leur confiance en lui. Mais cette foi, il dit, n'était pas forcément cette foi qui sauve, là. Comme le montre le verset suivant, il ne s'est fié pas à eux, il dit. Jésus savait que croire simplement à des signes, ou sous l'effet de l'émotion, ne suffisait pas, là. À plusieurs reprises, Jean mentionne dans l'Évangile que beaucoup des gens qui ont cru, apparemment, ils l'ont quitté. Ils l'ont quitté parce qu'ils ne répondaient pas à leurs critères concernant le Messie. Et pourtant, Jean mentionne que ces gens avaient cru. Ce n'est pas à cause des signes. Le miracle de Jésus n'a pas été fait pour que les gens puissent croire en lui. Ça l'a aidé. Mais ce n'était pas cela, là. C'était croire en Jésus, déposer leur foi au sacrifice de Jésus, qu'il était le Messie envoyé par le Père. Vous vous rappelez quand Thomas, okay, il a demandé à la fin, là, à toute fin de l'Évangile, il demande, je ne crois pas, là, il n'est pas ressuscité, il faut que je voie, là, il faut que je le touche même. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il est allé vers lui, puis il a dit, vas-y, touche. Et il dit, heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Vous avez cru en Jésus? Vous croyez en Jésus? Et vous ne l'avez pas vu. Bon, c'est ça la foi en fait. Croire en Jésus, même si on ne le voit pas. Croire en ce qu'il a fait. Le témoignage de la parole, le témoignage de... C'est ça le but de l'Évangile aussi. À la fin de l'Évangile, Jean a dit que ce livre a été écrit pour que les gens puissent déposer leur confiance en Jésus. Vous vous rappelez aussi Nathanaël, quand il dit, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Et Jésus lui dit, ben, avant que tu étais sous le figuier, je crois, je t'ai vu. Il a dit, ah, mon Dieu, tu es le roi d'Israël, parce que je t'ai dit ça, tu crois, il dit? C'est vraiment par la foi qu'on est sauvé. Comme il est Dieu, Jésus est Dieu lui-même, il voit au-delà des apparences, il connaît le cœur de l'homme, il connaît le cœur de l'homme et de la femme. Donc, dans les chapitres 3 et 4, cela est très bien montré. Il savait ce qui était dans le cœur de Nicodème. La semaine prochaine, on va parler de cet homme-là, Nicodème, et cette femme, dans le chapitre 4, la femme samaritaine. On va le voir. Mais, frères et sœurs, ce passage, ces paroles que nous avons lues tantôt, est magnifique. D'ailleurs, comme toute la parole de Dieu. Car il nous révèle la personne de Jésus, à la fois vrai homme, vrai Dieu. Il nous révèle son zèle pour la gloire du Père, la connaissance, il connaît les cœurs, son autorité aussi, on a vu. Ce passage nous encourage à lire les Écritures, à lire la parole de Dieu, pour y trouver des trésors qu'elle se trouve, qu'elle renferme sur la vérité, la grâce, la gloire de Christ. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. On veut connaître davantage notre Dieu et avoir une relation avec lui, adorer le vrai Dieu. Et dans ce texte, Jean nous dit que Jésus est le le temple de Dieu. Et il le sera toujours. Mais Dieu, Jésus est monté au ciel. Oui, mais il le sera, il va être toujours le temple. Oui, c'est vrai que ça paraît un peu peut-être spécial, parler de Jésus comme le temple, parce que dans l'Évangile des Jean, plusieurs fois, Jésus il dit, « Je suis quoi? Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain des vies. Je suis le chemin. » En tout cas, il n'a pas dit « Je suis le temple », mais il le dit indirectement, qu'il est le vrai temple. Vous voyez dans l'Apocalypse, on a lu il y a quelques semaines, là, avant la fin, là, il dit dans le chapitre 21, il dit, « Je n'ai vu pas de temple, dit Jean, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, c'est-à-dire Jésus. La ville n'a plus besoin ni soleil ni la lune pour briller, car la gloire de Dieu est claire, et l'agneau est son flambeau. » Dans Colossiens aussi, et l'apôtre Paul nous dit que toute la plénitude de Dieu habite en qui? En Christ. Il dit, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc le corps de Jésus est le lieu de la présence totale de Dieu. Comme il était autrefois le temple dans le lieu très saint, Jésus est le nouveau temple. Son corps crucifié et ressuscité remplace le temple qui était fait en pierre. Donc, regardons ce que Jésus déclare plus tard à ses disciples dans ce même évangile de Jean, sachant qu'il doit mourir, qu'il doit ressusciter et qu'il doit retourner même au Père. Il dit dans quelques versets, dans le chapitre 14 et 17, il dit « Esprit, l'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera avec vous, l'esprit. » Jésus lui répondit, 14:23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. » Il dit, chez lui, chez qui? Chez les disciples, chez les croyants. Dans sa prière sacerdotale, chapitre 17, Jésus dit, « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es un en moi. Et comme je suis en toi, que soit un en nous, il dit. Moi en eux et toi en moi. » Donc ces versets expriment clairement l'habitation de Dieu dans le cœur des disciples, des croyants en fait. L'apôtre Paul développe davantage, c'est ce qu'il est en train de dire, l'Évangile selon Jean. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, il dit, lui-même étant la pierre angulaire. En lui, il dit, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous, l'Église, nous sommes quoi? Le temple de Dieu. L'Église, son corps, est le temple spirituel où Dieu habite par son esprit. Un temple saint, il dit, pour le Seigneur. Mais nous ne sommes pas des simples individus qui se réunissent par habitude. Mais nous sommes une maison spirituelle, comme l'apôtre Pierre le mentionne dans son premier épître. Nous sommes une maison spirituelle, un temple où Dieu choisit d'habiter par son esprit. Donc, comme Richard le mentionnait tantôt, ce n'est pas le bâtiment qui fait l'Église. C'est vous, c'est moi, tous ceux qui croient en Christ Jésus, ensemble, unis en Christ, nous sommes le temple de Dieu. Donc, frères et sœurs, soyons encouragés à nous rassembler fidèlement, car chaque pierre vivante est nécessaire à l'édifice. Nous sommes tous des pierres vivantes, c'est ça? Nous sommes des petites pierres, nous sommes des grosses pierres, d'autres sont des moyennes pierres, mais sont tous des pierres vivantes qui construisent ce temple pour le Seigneur. Nous édifions mutuellement par la prière. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il dit que ma maison sera appelée une maison de, des prières, l'écoute de la parole, l'amour fraternel aussi. Vivre dans la sainteté, nous sommes encouragés à vivre dans la sainteté, car nous sommes le temple de Dieu saint. Mais Paul, il parle pas juste de l'Église comme le temple de Dieu, il nous parle à nous individuellement, il dit, ne savez-vous pas ceci, votre corps, il parle de notre corps, la physique, et le temple du Saint-Esprit, il dit qu'il est en vous, le Saint-Esprit est en vous, et que vous avez reçu des dieux, et que ne vous êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, soyons conscients que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce que nous faisons dans notre corps, reflète notre relation avec Dieu. Donc, évitons tout ce que le déshonore, qui déshonore ce temple, comme l'immoralité ou même la négligence, même négliger notre santé, c'est le corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus, avec son zèle, il a fait le ménage dans ce temple-là. Nous avons des fois faire des ménages dans notre temple. Comment se portent vos parvis, mes frères et sœurs? Y a-t-il des bœufs et des brebis qui devraient avoir place? Donc faisons attention. Soyons disponibles pour servir Dieu activement avec notre corps, en s'édifiant les uns les autres, participant à l'adoration comme on le fait aussi, en travaillant avec diligence, honnêteté aussi. Soyons reconnaissants pour le prix que Christ a payé pour nous. Il nous a rachetés. Que cette reconnaissance motive notre obéissance et notre désir de glorifier Dieu dans notre corps. Je vais finir avec Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, quoi ça, nos corps, nos temples, comme un sacrifice vivant. » Ça fait allusion aux choses qui se passent dans le temple, là. « Agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Et dans le verset 9, il dit, verset 9, « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement aux vies par amour fraternel. Ayez l'affection les uns les autres. Usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle, il dit, dans l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents en esprit, servez le Seigneur. » Amen. Donc, ce passage que nous venons d'étudier introduit très bien le repas du Seigneur que nous célébrons en ce matin. Nous sommes réunis comme le temple saint dans le Seigneur pour nous rappeler du sacrifice de Jésus pour nos péchés. Quand nous avons lu tantôt que Jésus avait mentionné aux Juifs détruisez ces temples, ils l'ont vraiment fait. Ils ont détruit, ils ont cloué Jésus à la croix. Ils l'ont crucifié. Pierre y en parle dans Acte 2, il dit, « Israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, selon le plan de Dieu, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. »